Que ce soit la mort d'un ami, d'un membre de notre famille, d'un collègue de travail, de foule d'inconnus lors d'un attentat terroriste ou d'une catastrophe naturelle. La mort vient bousculer notre vie, vient bousculer notre confort, notre quotidien. Et l'on trouve cela souvent profondément injuste. On est assailli par une foule de questions. Pourquoi ? Pourquoi il, elle ? Où était Dieu ? Pourquoi n'est-il pas intervenu ? Pourquoi n'a-t-il pas répondu quand je faisais appel à lui ? Et nous allons aujourd'hui nous plonger dans un récit dans l'évangile de Jean, le récit de la vie d'un simple homme, d'un homme ordinaire comme vous et moi, nommé Lazare. Lazare et sa famille vont être confrontés à la maladie, à la mort, à la tristesse et la foule de questions qui vont avec. Mais c'est dans les ténèbres les plus profondes de la vie de Lazare et de ce récit que Jésus va nous éclairer sur qui il est vraiment. Il va nous donner un véritable espoir, un espoir si grand, qui peut être surprenant même, qui va nous montrer que même face à la mort, Dieu peut transformer notre tristesse en joie. Il peut transformer notre désespoir en espérance. Et je vous propose de lire ensemble ce récit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. L'Évangile selon Jean au chapitre 11. On va voir que ce texte, c'est un peu comme un bon film ou une bonne série quand il y a plusieurs épisodes. Ici, il y a 4 actes dans ce récit. Voilà, c'était déjà là. Super. Une maladie pour la gloire de Dieu, la foi de cette famille mise à l'épreuve, un miracle qui arrive plus grand encore et des réactions opposées. Je vous propose de lire d'abord Jean chapitre 11, versets 1 à 16. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Une maladie pour la gloire de Dieu. On arrive ici dans l'évangile de Jean à un moment culminant de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Alors qu'on cherchait à l'arrêter, il s'échappa et retourna à l'endroit où Jean-Baptiste baptisait au commencement. Et c'est là-bas qu'il apprend la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Son ami Lazare est malade, très malade pour qu'on vienne faire tout ce chemin pour venir chercher Jésus. C'est vraiment un cas désespéré. Leur frère était grandement malade, Marthe et Marie. Elles envoient donc ce messager pour chercher Jésus. On pense que cet endroit était certainement à près de 150 kilomètres de la ville de Béthanie. Et donc, ça veut dire au moins un minimum un jour de marche pour aller donner cette nouvelle à Jésus. Mais voilà, elles connaissent Jésus. Elles savent que Jésus peut guérir leur frère comme il a guéri l'aveugle-né. au chapitre 9. D'ailleurs, cette guérison, tout le monde est au courant à Jérusalem. Elle a fait la une des journaux de l'époque. Ça l'avait même forcé à fuir Jérusalem. Jésus apprend cette nouvelle au verset 3, ainsi, « Celui que tu aimes est malade. » Et il répond de manière surprenante, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils soit révélée. » Cette phrase, je pense, peut nous faire attendre que Jésus va guérir Lazare. Au sujet de l'aveugle-né, n'avait-il pas dit, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui ?» Mais voilà, Jésus, ici, va faire deux choses surprenantes. La première d'entre elles, il va attendre 2 jours. Vous avez vu ça? Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il n'est pas dit qu'il s'empressa de partir voir Lazare. Il fit son sac, il dit aux disciples, prenez la nourriture, moi j'y vais, vous me rejoindrez. Non, il attend 2 jours sur place. Il attend délibérément 2 jours avant de partir. Tellement que quand il arrive à Béthanie, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Je ne sais pas pour vous, mais la première réaction quand on entend ce récit, c'est de se dire, mais Jésus, il l'aime pas vraiment, Lazare. C'était peut-être juste des belles paroles. Et là, quand arrive la situation critique, il n'est pas présent. S'il les aimait vraiment, il en aurait fait une priorité et il serait parti tout de suite. Voilà ce qu'on peut penser. Et pourtant, Jean, ici, veut nous montrer qu'il y a quelque chose de plus grand encore. Au verset 3, il nous précise, « Celui que tu aimes est malade. » Au verset 5, on nous dit, « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » On pourrait presque traduire, « Parce que Jésus aimait Marthe, Marie, sa sœur et Lazare. » Il est resté 2 jours. Et même plus loin, au verset 36, les Juifs présents, quand ils voient Jésus pleurer devant le tombeau, disent, « Voyez comme il l'aimait. » Jean nous laisse aussi une remarque au début du chapitre 11. Il nous parle de ce récit de Marie qui a oint les pieds de Jésus avec du parfum. On se dit, pourquoi est-ce qu'il en parle au verset 11, chapitre 11, alors que ça n'arrive qu'au chapitre 12? Peut-être que les personnes, les lecteurs de l'époque étaient au courant de cette histoire de Marie, elle circulait dans l'église à l'époque. Mais peut-être aussi que Jean voulait montrer que Marie était cette femme qui a dévoué sa vie entièrement au Seigneur, qui avait oint de parfum les pieds de Jésus. Cette famille était tellement intimement proche de Jésus. Pas de doute possible. Aucun doute possible. Aucun doute possible. Jésus aime cette famille. Et il aime Lazare. Et pourtant, il attend là 2 jours. Deux choses surprenantes. Déjà, il attend 2 jours. La deuxième chose surprenante, c'est que finalement, il va retourner en Judée. Verset 7, retournons en Judée. Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Vous allez peut-être me dire, regardez la réaction des disciples. Verset 8, ils disent, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. Un peu comme si on disait, tu es sérieux là? Tu veux retourner en Judée, on cherchait tous à te faire mourir. D'ailleurs, pour prouver qu'ils sont tellement convaincus de cela, Thomas, à la fin, dit même, ben, allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. Ils sont convaincus que Jésus y retourne dans ce guet-apens. Il laisse un ministère fructueux en plus, près du Jourdain, pour retourner dans l'endroit où on va le tuer. Jésus attend 2 jours, puis il retourne, comme pour montrer que c'est Dieu qui contrôle les événements et la vie de Jésus, et pas les hommes. Les personnes ne vont pas choisir où et quand l'arrêter et le mettre sur une croix. C'est Jésus qui délibérément choisit le temps que le Père a prévu. D'ailleurs, les paroles suivantes, si vous regardez au verset 7 et 10, Jésus nous parle de 12 heures de jour. On peut se dire que c'est peut-être une parenthèse un peu incompréhensible dans ce récit. Mais en fait, dans le temps juif de l'époque, on avait tendance à diviser, on n'avait pas forcément nos montres comme aujourd'hui, on divisait la journée, le temps de jour, en 12. Ici, ça symbolise la vie, le ministère de Jésus, qui marchait dans le jour, pas encore arrêté. Il était libre de pouvoir se déplacer, libre de pouvoir parler, de pouvoir prêcher, de pouvoir guérir les malades, montrer qu'il était vraiment. Mais voilà, à la fin de ce chapitre 11, la nuit va commencer à tomber sur la vie de Jésus. D'ailleurs, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, il s'agit des dernières heures de la vie de Jésus, de son arrestation, de son faux jugement et de sa mort sur la croix, puis sa résurrection. Jésus rappelle un peu ici, comme à Thomas qui pense on va mourir avec lui. Ils ont peur de retourner en Judée. Il leur rappelle à eux aussi que leurs inquiétudes ne vont pas rallonger la vie du Seigneur Jésus. Les menaces des Juifs de l'époque ne vont pas rétrécir la durée de sa vie. Peut-être que de la même manière, nous aussi, quand on entend ces paroles et qu'on est inquiet, on peut se rappeler que les inquiétudes ne rallongeront jamais la durée de nos vies. C'est un appel à faire confiance à Dieu, au sein de l'épreuve, le Dieu souverain, le Dieu qui contrôle, même quand il ne répond pas à nos prières de la manière dont on s'y attend. Au verset 11, si vous regardez avec moi, Jésus ici rentre dans le vif du sujet. Mon ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alors, les disciples, ils pensent bien entendu que c'est un bon signe. S'il dort, il est en train de récupérer, il va aller bien mieux. Mais non, Jésus précise, il est vraiment mort. Pas de messager ici pour venir dire à Jésus que finalement, il est mort, pas besoin de venir. C'est peut-être un petit détail, mais qui là encore nous montre que Dieu connaît les circonstances de nos vies. Il les connaît avant même qu'on s'adresse à lui dans la prière. Il n'est pas surpris par la maladie, il n'est pas surpris par la mort. Et il prend soin de nous, même quand nous n'avons pas cette réponse attendue. Car, c'est clair dans cette histoire, il nous aime. Il aime cette famille, même s'il agit d'une manière qui, pour nous, ne rentre peut-être pas dans notre schéma de compréhension. Alors, il est un peu plus clair ensuite. Pour quelle raison a-t-il attendu 2 jours pour finalement y retourner? Il le dit enfin clairement au verset 15. « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Waouh, je me réjouis. C'est un peu dur d'entendre ça, non? Son ami Lazare vient de mourir. Donc nous, des fois, on lit les évangiles, on a l'impression que on les lit presque comme des histoires qui ne sont pas réelles. Mais c'était vraiment un vrai homme, une vraie situation. Il est vraiment mort. Et il dit aux disciples, « À cause de vous, je me réjouis que je n'étais pas là. » C'est un peu dur, non? Mais on va voir pourquoi. « Afin que vous croyiez. » Jésus n'est pas méchant, il n'est pas insensible quand il dit cela. Rappelez-vous, Jean, il a parsemé tout ce récit. Jésus aime Lazare, il aime Marthe et Marie. Elle a oint de parfum ses pieds. Donc il ne laisse aucun doute possible que ces réactions de Jésus, qui pour nous sont incompréhensibles, soient liées à un manque d'amour. Ça doit être lié à autre chose. « Afin que vous croyiez. » C'est pour cela que Jésus a dit plus tôt, verset 4, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Est-il possible que Dieu nous aime et permette la maladie et la mort? Ou même, je vais même plus loin que cela, est-il possible que Dieu permette la maladie parce qu'il nous aime? C.S. Lewis, qui est célèbre pour avoir écrit les Chroniques de Narnia, a dit cette phrase dans son livre « Le problème de la souffrance ». Dieu murmure à nos oreilles dans nos moments de plaisir. Il parle à notre conscience. Mais dans la souffrance, il crie. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Dieu murmure à nos oreilles dans nos plaisirs. Mais dans notre souffrance, il crie. Parfois, la souffrance permet à Dieu de capter notre attention, de nous parler pour notre plus grand bien, par amour pour nous. Le pasteur John Piper disait qu'il mettait au défi un peu la compréhension de la définition de l'amour. L'amour, selon Hollywood, vous savez ce que c'est? C'est de donner à l'autre ce qu'il veut. Il nous met au défi en disant, est-ce que l'amour de Dieu, dont il est question dans les Écritures de la Bible, n'est pas encore plus fort que cela. Dieu nous donne pas forcément ce que l'on veut, mais il nous donne ce dont on a vraiment besoin. Le véritable amour, c'est de nous donner ce dont on a besoin, pas forcément ce que l'on veut. C'est sûr, ce que l'on veut, si vous êtes comme moi, c'est une vie confortable, sans maladie, sans mort, sans soucis, avec un peu de spiritualité chrétienne. Notre chair, est-ce que c'est pas ça qu'elle désire? Mais ce dont on a le plus besoin, et ce dont l'Évangile nous raconte, cette merveilleuse nouvelle, c'est de voir la gloire de Dieu, de voir qui il est, de comprendre qui est ce Jésus dont il est question dans les Évangiles, de réaliser que Dieu existe vraiment, de comprendre et croire qu'il y a une vie après la mort pour ceux qui croient en Jésus. Cette maladie, on peut donc dire, est un acte d'amour de Dieu pour qu'on puisse voir la gloire du Fils et croire en lui. Et c'est ce même amour qui a poussé le Fils lui-même à être là ce jour-là à Béthanie et à se livrer ensuite pour mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Peut-être vous vous souvenez dans Jean chapitre 1, Jean disait ceci, verset 14 et verset 18. Il disait que la parole s'est faite homme en parlant de Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il dit ensuite, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus a quitté son confort du ciel, est venu sur cette terre, est mort, allé dans le tombeau, ressuscité pour qu'on puisse connaître Dieu. Et cette vie de Lazare a permis de révéler qui Jésus était vraiment. Finalement, ce n'est pas tant que ça l'histoire de Lazare dont on nous raconte l'histoire ici dans ce récit. D'ailleurs, vous avez peut-être vu au verset 1, l'histoire commence, il y avait un homme malade. Un homme ordinaire, comme vous et moi, comme beaucoup d'autres. Mais ici, il nous raconte l'histoire du Fils de Dieu. Pour qu'on le voie que notre plus grand bien est de le connaître lui. Au-delà même d'une guérison physique qui soit peut-être la plus réjouissante du monde. Il nous montre un grand bien, encore plus grand que cela. Le jour où nous mourrons, même s'il nous guérit ici-bas, nous mourrons tous un jour. Mais ce jour-là, quand on connaît Christ, on sait qu'on a la vie en lui. Dans la souffrance, on ne comprend pas toujours, mais on peut toujours le connaître. Donc Jésus attend 2 jours ici en Béthanie. Vous êtes prêts pour la suite de l'acte ? Ça va ? Verset 17. La foi mise à l'épreuve. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en disant, « Le Maître est ici, il te demande. » À ces mots, Marthe se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir, ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus, quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné, bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Marthe, Marie et les Juifs présents ici pendant son deuil ont tous la même phrase au bout de leurs lèvres, la même phrase que chacun d'entre nous on a face à la réalité de la maladie et la mort. Verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean utilise la même phrase pour Marie, qui dit la même chose, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » « Si tu avais été là » ne semble pas forcément un reproche ici, fait à Jésus. Mais c'est plutôt un cri de douleur. Marthe, Marie font connaître leur souffrance à leur maître et gardent pourtant l'espérance de la résurrection au dernier jour. Mais face à ce cri de douleur, Jésus lui donne des paroles vraiment d'espérance. Les seules paroles d'ailleurs qui dans le monde entier peuvent nous donner de l'espérance face à quelque chose d'aussi tragique que la mort. Et c'est le verset clé ici de ce chapitre, verset 25. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est le cinquième « je suis », vous vous rappelez dans l'évangile de Jean ? Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Ici, Jésus affirme qu'il ressuscite les morts et donne la vie éternelle. Mais qui peut faire ça à part Dieu lui-même ? Qui peut ressusciter les morts à part Dieu lui-même ? D'ailleurs, une fois, quand j'étais étudiant à l'université, j'étais avec deux étudiantes et elles me posaient des questions sur l'évangile dans la cafétéria de l'université. Alors j'explique l'évangile, j'arrive à la résurrection. Et là, la réaction en face de moi, c'était, on me lance, sérieux ? Sérieusement ? Mais tu crois vraiment que Jésus est ressuscité d'entre les morts ? Tu crois vraiment que quand tu crois en lui, tu ressusciteras ? Peut-être ce jour-là, j'avais une audace particulière que je n'ai pas forcément tous les jours. J'ai juste répondu « Oui, oui, je crois que Dieu est celui qui donne la vie, mais je crois qu'il est celui qui peut la redonner. Et crois en lui, ses promesses sont vraies. D'ailleurs, vous savez quoi ? Il va le prouver ici. Quelle plus belle façon de prouver qu'il peut ressusciter d'entre les morts que de ressusciter Lazare, ici, dans ce passage ? Il prépare ici cette résurrection. Il demande à Marthe et la challenge un peu. Marthe, crois-tu cela ? Vous savez, il ne demande pas ici à Marthe s'il croit qu'il va ressusciter Lazare maintenant, aller au tombeau et le ressusciter. Non. La preuve, elle dit, je crois que tu peux le faire au dernier jour. Comme la majorité des Juifs de l'époque, à part les Sadducéens en particulier, ils croient que Dieu va ressusciter les morts après le jugement. Mais ici, quand il demande, crois-tu cela ? Elle demande à Marthe, et je pense à chacun d'entre nous. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Est-ce que tu crois qui est vraiment Jésus ? Quelle est son identité ? Qu'il est celui qui donne la vie, celui qui ressuscite d'entre les morts quand on croit en lui. Et Marthe fait cette belle confession de foi. Parfois on est troublé parce qu'on pense à l'histoire de Luc chapitre 10, quand il y a Marthe et Marie, et Marthe qui semble un peu affairée et troublée dans d'autres histoires. Mais ici, rappelez-vous, on est dans l'évangile de Jean, on nous parle de Marthe ici, sous cet angle-là. Ce n'est pas du tout une Marthe qui manque de foi. Elle dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Elle le dit avant même le miracle. Son frère est mort. Hein. Et Marthe exprime sa foi dans le Sauveur promis. La réaction des autres est différente. Au verset 36, ils disent « Il a ouvert les yeux des aveugles, ce qui ne pouvait pas guérir cet homme. » Ils ne sont pas non plus forcément moqueurs ici. En tout cas, on n'a pas d'indice qui nous le montrerait. Mais en tout cas, leur réaction va révéler un manque de foi de leur part. La mort de Lazare les met eux aussi à l'épreuve. Comme si leur foi était basée uniquement sur les miracles. Et dès qu'un miracle n'arrivait pas comme prévu, dès qu'une réponse n'arrivait pas comme prévu, c'était toute leur foi qui s'écroulait. Et cela va indigner Jésus. Si vous regardez au verset 33, 35, 36, quand il voit pleurer les personnes, Jésus, il est profondément indigné et bouleversé. Et ensuite, il pleure. Laissez-moi vous suggérer qu'ici, Jésus est à la fois triste, mais il est aussi indigné. Il est triste parce que son ami est mort, il voit la tristesse de Marthe et Marie, il est plein de compassion pour les personnes et il pleure avec eux. Jésus, cet homme de douleur qui a connu la même souffrance que nous et on peut venir à lui pour la consolation. Mais ici, il pleure aussi pour leur manque de foi. Les personnes, elles ont vu, certaines d'entre elles, l'aveugle né. Certaines ont entendu parler de cette histoire. Ils ont entendu Jésus parler. Et il semble que jamais, jamais ça suffit. Ça suffit jamais. Il faut toujours une preuve de plus. Il faut toujours quelque chose de plus pour qu'il croie. J'aimerais vous encourager pour vous dire que dans l'épreuve, on peut venir à Dieu pour la consolation Je vais faire un petit jeu de mots, mais ça vous permettra de le retenir. Mais il veut aussi qu'on vienne à lui pour la consolidation de notre foi. On peut venir avec lui, devant lui, comme Marthe et Marie, elles arrivent, elles disent « Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Jésus ne les reprend pas en disant « Mais dites pas ça, il y a la foi. » Non, il écoute la souffrance, il écoute le cœur brisé. On peut venir à lui pour sa consolation. Mais si nous ne voulons pas laisser les épreuves de la vie détruire notre foi, il faut aussi venir à lui pour dire « Seigneur, dans cette épreuve, consolide ma foi. Aide-moi à voir au-delà qui tu es. » Si on revient à ce thème de l'amour, vous savez, quand l'épreuve nous touche, on se dit « Soit Dieu, il nous aime. Et s'il est puissant, il va nous guérir. » D'accord ? Parce qu'on pense que l'amour, c'est toujours nous donner ce que l'on veut. Pas forcément ce dont on a le plus besoin. Et ici, dans ce texte, est-ce qu'il n'aime pas Lazare ? Bon, c'est clair qu'il l'aime. Est-ce qu'il n'est pas puissant pour le faire ? Même les Juifs le disent, il a guéri les aveugles. Oui, il est assez puissant pour le faire. Ok, alors il aime, il est puissant, et notre équation ne fonctionne pas. Notre équation humaine ne fonctionne pas dans ce cas-là. Comme si Jésus montrait qu'il met aussi notre foi à l'épreuve pour la fortifier, pour la consolider. Il va fortifier la foi de Marthe, Marie et des disciples ce jour-là. Il nous console et il nous consolide. Et vous allez peut-être dire c'est facile pour eux, parce que Lazare, après, il est ressuscité. C'est pas comme nous quand on tombe malade. Vous savez, déjà Lazare, il est tombé malade comme nous. Il ne savait pas que Jésus allait arriver là et le ressusciter entre les morts. Deuxièmement, Lazare, il est certainement remort une deuxième fois. Donc c'est pas forcément très sympa non plus. Et si l'on croit en Jésus, pensez-vous que la promesse est différente que cela ? On peut tomber malade, on peut mourir, mais on a la promesse qu'on ressuscitera. Cette promesse est aussi tangible que ce jour-là à Béthanie. Aussi tangible que si quelqu'un ressuscitait ici ce matin. On a la promesse qu'après notre mort, si on croit en Jésus-Christ, on vivra pour l'éternité, car il est la résurrection et la vie. Et peut-être que cela aussi peut nous consoler, nous consolider dans l'épreuve. J'aimerais rapidement vous raconter une petite histoire que j'ai entendue d'un pasteur. Il était assis une fois devant la télévision et regardait la série 24 heures chrono. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'était l'histoire de Jack Bauer, un super gars de l'antiterrorisme. Et puis ce jour-là, le président américain, il y a un attentat qui est prévu contre lui. Le seul problème, c'est qu'on sait qu'il y a un attentat, mais on ne sait pas qui va le commettre. On sait juste que ça va arriver dans 24 heures. Mais bon, Jack Bauer est là, donc c'est bon, pas de souci. Et donc le pasteur, il est assis, il regarde sa télé, et puis il est à fond dans l'histoire, à fond dans le narratif. Et puis il voit Jack qui arrive devant une maison, et il sait, dans cette maison-là, il y a tous les terroristes. Mais Jack, lui, il n'est pas sûr, vous savez, il va voir. Il arrive juste avec son petit pistolet. Il rentre dedans, et le téléspectateur, il voit à la télé que dedans, ils ont les grosses armes, ils sont une quinzaine, mais Jack, il n'a aucune chance. Et du coup, le pasteur, il regarde, il commence à stresser, il commence à angoisser, vous savez, les mains moites, envie de te lever, d'aller vers la télé, dire « Jack, arrête-toi, ils sont là, appelle du renfort !» Il arrive derrière la porte, il va pour tourner la porte, et nous, on sait que tous les terroristes sont derrière. Il tourne la porte, ils sont là, il se cache, il sort son pistolet. Et dans ce moment où l'angoisse peut prendre part de téléspectateurs, si vous le voulez, le pasteur, il dit « Mais j'ai vu la pub à la télé pour la saison 2. J'ai vu Jack à la télé dans la saison 2. Ça veut dire que dans cette saison 1, il va pas mourir. » Mais du coup, ça lui a un peu enlevé le suspense. Il regardait la télé, bon, voilà. Oui, bim, 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 boum, boum. Aïe, j'ai mal, mais il va s'en remettre. Ça va aller. On connaît aussi la fin de l'histoire, si on croit que Jésus est la résurrection et la vie. Certainement que cela peut nous consoler et nous consolider. Et c'est quelque chose que le Seigneur doit révéler à chacun d'entre nous. On va accélérer pour la fin et lire ce verset 38 à 44. On arrive maintenant au temps du miracle. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée. L'entrée. Ça ne vous rappelle pas une histoire qui arrivera plus tard ? avec une pierre aussi devant une tombe. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Waouh ! Jésus nous rappelle ici qu'il ne faut pas mettre un point là où Dieu met une virgule. Nous préciser, vous savez que ça fait 4 jours qu'il est mort. Vous vous souvenez, il a attendu 2 jours. Une croyance populaire à l'époque faisait que les gens pensaient que l'esprit du corps défunt, du mort, planait un peu au-dessus du corps pendant 3 jours. Jésus a donc attendu ces 2 jours pour que quand il arrive devant la tombe, on lui dise « Il sent déjà, il est en décomposition, là c'est fini ». Ce sera arrivé peut-être il y a un jour. Là, si vous permettez, c'est mort. 4 jours. Mais Jésus, voilà, lève les yeux vers le Père et fait cette prière. Déjà, quand il dit Père, vous savez, c'est révolutionnaire. Ça montre que l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu est l'amour d'un Père parfait qui nous aime parfaitement. Ensuite, il montre d'autres choses qu'il avait déjà dit dans Jean 5. Qu'il ne fait rien sans le Père et que le Fils, tout ce que le Fils demande, le Père l'accomplit. Il le dit dans cette prière. Et le résultat est que les gens vont croire que Jésus est envoyé du Père. Jésus ordonne donc ôter la pierre. 4 jours, Marthe plutôt, elle n'est pas très confiante là. Et Jésus redit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Lazare, il crie d'une voix forte, Lazare sort. Il part d'une voix forte, peut-être parce qu'il y avait une foule autour du tombeau pour que tout le monde entende bien, peut-être parce que des fois il y avait des sortes de petits sorciers ou autres qui étaient là et pour parler plus fort que leur voix. Ou peut-être aussi tout simplement pour nous montrer que la voix de Jésus perce même dans les ténèbres de la mort, que sa voix peut percer dans nos doutes, dans nos incertitudes, dans nos questions. Quand on est mort spirituellement, il peut venir nous parler pour qu'on entende sa voix. Et Lazare sort. Waouh ! Il est mort et il ressuscite d'entre les morts. C'est une image de la résurrection de Jésus lui-même qui ira au tombeau et qui ressuscitera d'entre les morts. C'est aussi une image de la résurrection qui nous attend à chacun d'entre nous quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur Jésus. Il nous appelle de la mort à la vie, de sortir de notre mort spirituelle, d'être réveillés pour une vie nouvelle, pour une destinée éternelle, pour marcher à sa suite, vivre dans l'espérance de son retour. Ici, tous sont surpris devant le tombeau. Tous surpris. Ils doivent rester scotchés, parce que Jésus leur dit « Allez-y, déliez-le ». Ils voient le Lazare qui sort en bandelette. Je pense que chacun d'entre nous, on serait terrifié. Surpris que Jésus a vraiment ressuscité cet homme. Peut-être je me permets un parallèle ici, mais parfois nous serons aussi surpris. Nous verrons quelqu'un venir à la foi en Jésus, dont on ne s'attendait pas. On verra une vie changée par le message de l'Évangile. Peut-être même la nôtre, face à nos craintes de l'avenir, de la mort, de la maladie. Et c'est le témoignage de tellement de personnes. Ici, il préfigure le miracle de la vie de Jésus, quand il va ressusciter, mais aussi celui quand nous-mêmes, nous allons ressusciter d'entre les morts. D'ailleurs, c'est lié avec le fait que Marthe ait dit « Je crois que mon frère ressuscitera lors du jugement dernier. » Et il dit « Je crois que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. » C'est donc bien une image de notre résurrection à nous. Dans la fin de ce passage, il y a des réactions opposées. Certains vont croire en Jésus et certains ne vont pas croire en lui. Comme un peu à l'habitude dans l'évangile de Jean, vous savez, ceux qui ne croient pas, ils font quoi ? Ils vont voir les responsables religieux pour dire « il a encore fait des miracles ». Ils se disent que si on ne l'arrête pas, tout le monde va croire en lui. C'est un peu le but hein, que Jésus avait et que Jean a de nous dire qu'il fait ses miracles afin qu'on croit en son nom et qu'en lui, on ait la vie éternelle. Mais il y a Caïphe ici, et j'aimerais relever ça pour terminer. Il est grand prêtre à l'époque, et au verset 49, il dit une chose très 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 intéressante. Il leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Caïphe ici dit que Jésus devait mourir pour la nation. Le langage utilisé est le même que dans Jean 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le langage du sacrifice. Il pense certainement à la politique quand il dit cela. Il vaut mieux pour nous que cet homme meure. Peut-être même pour la nation par rapport aux Romains et tout. Mais ici, Jean, il veut nous montrer que ce que Caïphe a dit, en fait, était vrai spirituellement. Il devait mourir pour nous. Il fallait qu'il meure pour nous. Jésus ne donne pas sa vie pour être simplement un bel exemple d'un amour sacrificiel. Non. On ne peut pas croire ça si on lit des évangiles. Jésus a donné sa vie parce qu'il devait le faire. Pour chacun d'entre nous, il devait le faire. Sinon, on serait resté dans ce tombeau. On aurait la condamnation pour nos fautes pour l'éternité. Jean nous rappelle, c'est l'agneau de Dieu, Jésus, qui vient ôter le péché du monde. Il est venu pour cela, pour mourir. Pas pour la nation seulement, mais pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ça fait appel à tellement de choses qu'on a vues dans l'évangile de Jean. Un seul berger, un seul troupeau. Au chapitre précédent, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, au chapitre 3. Quiconque, que ce soit le chef religieux comme Nicodème, la femme samaritaine, l'officier romain, ou l'homme de bonne famille, Lazare, et ses sœurs. La foi est pour tout le monde, peu importe notre éducation, notre arrière-plan, les circonstances de nos vies. C'est une offre pour chacun d'entre vous. Le récit termine. Au verset 53, dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir, et c'est vraiment un tournant. Oui, les 12 heures de jour dans la vie et le ministère de Jésus vont s'arrêter. Ici, ils décident qu'ils vont le mettre à mort. En fait, c'est peut-être ici qu'a lieu le véritable tribunal de Jésus, parce qu'on sait qu'il n'aura aucun jugement juste. Et ici, ils ont pris cette ferme décision qu'il allait mourir. Au verset 54, Jean nous précise quand même que la réaction de Jésus, c'est de partir dans le désert d'Éphraïm. Encore une fois, comme si Jésus montrait, ce n'est pas vous qui choisissez le temps de ma vie et de ma mort. Il part dans le désert, et il va choisir lui-même de revenir, en passant d'ailleurs par Béthanie, et en allant sur sa route comme le roi qui entre dans Jérusalem, le roi qui va mourir pour son peuple. Jésus choisit de se livrer pour nous. Alors malheureusement, aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes ont l'idée que Jésus, il n'est pas venu amener la vie, comme il dit ici. Et que Jésus, il est venu amener une leçon de morale aux gens. C'est ce que croient beaucoup de nos contemporains. Qui ne comprennent pas que Jésus est venu amener la vie en abondance. Une vie qui transforme beaucoup de choses dans nos vies, certes. Mais qui est premièrement la vie et la résurrection de le connaître. Est-ce que vous croyez cela ? Il le demande à Marthe, il le demande à nous, parce que ça demande une décision de se positionner. Peut-être commencer par se dire, je veux en savoir plus, je veux explorer davantage la foi chrétienne, je veux venir peut-être au cours découverte à l'église ou en parler à un chrétien. Ou peut-être simplement dire, moi c'est à l'âge de 19 ans que je l'ai compris, de dire dans son cœur, oui Seigneur, je crois, tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Que ma mort est entre tes mains, que ma vie est entre tes mains, que tu es ma véritable espérance. Oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Je veux placer ma confiance pour ma vie et ma mort entre tes mains. Je vous fais un dernier rappel de ces applications. La maladie pour la gloire de Dieu parce qu'on peut le connaître. Et c'est un appel à replacer Dieu au centre de nos vies, à venir pour accepter le sacrifice parfait de Christ pour nos fautes et le connaître. Il veut aussi nous consoler. Et quand on passe par des temps d'épreuve, on sait qu'on peut lui dire ce qui est sur notre cœur et recevoir la véritable consolation dont on a besoin. Mais il veut aussi, dans l'épreuve, consolider notre foi. Et ne perdons pas ça de vue quand nous passons par l'épreuve, parce qu'il veut peut-être parfois l'éprouver dans le feu, mais pour la consolider. Et finalement, pour que nous croyions en lui sur ce qu'on nous arrivera après la mort. Et autant qu'on en parle avant, pour que le jour où on y est confronté, chacun d'entre nous, et ben, même si on a peur, même si on a l'angoisse, on puisse savoir que notre espérance est vraie et que c'est ce qui nous unit tous en tant que chrétiens. C'est qu'on croit que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ?